Bonjour à chacun, à chacune. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir ce matin ici pour ce culte. Bienvenue à tous les enfants. Bienvenue à toutes les personnes qui ont l'habitude de ce lieu et à toutes les personnes qui sont peut-être là pour la première fois. Que chacun se sente vraiment les bienvenus ici. Et ouais, sentez-vous à l'aise parmi nous. Nous allons vivre un temps de culte tous ensemble. Et avant, je vous propose qu'on profite que les enfants soient là pour faire une petite expérience.
Est-ce que le... Oui.
Alors, je vais demander à deux enfants de venir vers moi. Est-ce qu'il y a deux courageux? Ouais, viens. Et puis toi, tu viens? Alors, on va rester ici parce que je crois que les enfants, vous nous voyez. Est-ce que vous me voyez là? Ok, alors c'est parfait. Alors, toi, tu vas tenir la couverture avec moi. Alors, c'est Margot qui va se mettre ici. Tu peux venir là, Margot. Tu peux venir ici. Voilà. Est-ce que tout le monde voit Margot? Oui. Margot, tu peux faire coucou. Et maintenant, on va monter la couverture. Est-ce que tout le monde voit Margot? Oh! Elle est où, Margot? Oh! Est-ce que tout le monde voit Margot? Est-ce que vous pensez qu'elle est toujours par là, toujours avec nous? Oui? Vous pensez qu'elle est là? Si on enlève la couverture, vous pensez qu'elle sera toujours là? Oui? On essaye? Oh, elle est toujours là. Super, merci. Alors vous pouvez aller vous rasseoir.
Alors, si on a fait cette expérience, c'est parce que il y a jeudi, vous avez eu congé. Est-ce que c'est juste? Vous n'êtes pas allé à l'école jeudi? Hein? C'est juste? Tu sais pourquoi? Parce que c'était l'Ascension. Et alors, je vais prendre ce micro parce que
ça ira mieux. Et alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'Ascension? Non. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est l'ascension? Ouais, tu veux nous expliquer?
C'est quand Jésus il est allé avec Dieu.
C'est quand Jésus il est allé avec Dieu. Ben oui, c'est ça. L'ascension, c'est un jour, il y a très 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 longtemps, Jésus il était avec ses disciples et il a rejoint Dieu. Donc il a quitté ses disciples, il est parti et il est allé vers Dieu. Et maintenant, Jésus, ben, on ne le voit plus. Et est-ce qu'on peut encore lui parler? Vous pensez qu'on peut encore lui parler? Ouais? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il nous entend? Oui. C'est comme avec cette couverture, Margot, on ne la voyait plus, mais elle était toujours là. Et Jésus, c'est un peu la même chose, on ne le voit plus, mais il est toujours là. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on est ici, pour qu'on fait un culte et qu'on fait des cultes tous les dimanches, parce qu'on croit que Dieu est toujours vivant et qu'on peut lui parler, qu'il nous entend et que lui aussi peut nous parler et qu'il a envie qu'on vive une vie avec lui. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin et on va commencer par le faire avec des chants où on va le louer et prendre du temps pour accueillir Dieu parmi nous. Alors je vais juste prier. Et ensuite, on va chanter des chants pour Dieu. Seigneur, je te remercie d'être avec nous ce matin. Et je te prie que chacun se sente le bienvenu ici ce matin. Je te prie que tu puisses venir nous parler ce matin. Et Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Et merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Alors on veut te glorifier pour qui tu es et on veut se centrer sur toi ce matin. Amen.
bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sort du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi. Il s'est livré, sacrifié sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Tenu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, toi c'est merveilleux. Son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi.
Or les ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli. Pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi,
mon âme, éveille-toi, mon âme.
L'amour a perdu, il a vaincu, éveille-toi.
Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi.
Par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires.
Tu comptais
Oui, nous ne serons jamais assez reconnaissants de cette grâce que Dieu nous a faite. Mais nos efforts ne servent à rien pour obtenir quoi que ce soit que Dieu nous a donné. Nos efforts ne servent à rien. C'est un pur cadeau de sa part. Alors prenons-le comme tel et venons dans la louange avec prière de reconnaissance, prière d'adoration, que notre cœur soit tourné entièrement vers lui. Nous sommes venus ce matin parce que le Dieu de l'infini, il est créateur tout-puissant et il est venu toucher notre cœur. Puis j'aimerais vous lire un verset qui est un peu déstabilisant, mais qui fait partie des paroles de la Bible. C'est quelques heures avant que Jésus se fasse arrêter. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Votre douleur se changera en joie. » Parole insensée de la part de celui qu'on imagine, qu'ils imaginaient en tout cas, mais nous aussi, comme Messie et libérateur du joug des puissants de ce monde. Et puis il nous dit, vous allez souffrir, puis les autres, ils vont se moquer de vous. Puis je crois que les 40 jours passés entre la résurrection du Christ et puis l'Ascension et puis la Pentecôte ont dû être des moments un peu déstabilisants pour les disciples et un peu opprimants. Ils ne devaient pas trop comprendre ce qui se passait ou qu'une partie. Puis lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils posaient des questions, puis la réponse, elle ne venait pas comme ils pensaient. Voilà, un peu frustrant, très formateur pourtant. Et Philippe, ce matin, il va nous parler de ce thème et je me réjouis de tout ce qu'il va avoir pour nous, à nous transmettre sur ce thème de cette incertitude, de ces doutes, mais de cette foi que nous avons. Et on a l'avantage de connaître l'issue de ces 40 jours et puis la venue de la Pentecôte du Saint-Esprit. Alors ça nous permet d'affirmer avec foi que Jésus est vainqueur. Alors on va chanter ce chant de victoire. Il est Seigneur, l'heure est arrivée.
Manifest.
Béni soit ce Dieu d'amour. Ensemble. Seigneur, j'ai des milliers de raisons de te louer. Je veux te louer parce que tu m'as fait, que tu m'as rencontré personnellement. Je veux te louer parce que tu as créé une nature magnifique dans laquelle je suis ressourcé lorsque je la parcours, une cathédrale de verdure. Je veux te louer parce que tu m'as donné une famille, des amis, des frères et sœurs en Christ. Je veux te louer parce que tu me donnes à manger chaque jour. Je veux te louer parce que tu as pardonné mes fautes. Je veux te louer parce que tu ôtes mes angoisses et tu m'aides à surmonter mes peurs. Je veux te louer parce que tu me donnes l'assurance d'être un témoin de toi auprès de mes collègues, de mes amis non chrétiens. Amen. Que chacun puisse aussi réfléchir en quoi il peut dire « Je veux te louer parce que... » Avec ton esprit, nous vivons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance. Merci Saint-Esprit d'être là pour nous révéler la gloire du Père, pour nous révéler qui tu es. Et Saint-Esprit, nous te demandons d'accompagner les enfants aussi, de toucher leur cœur ainsi que leur moniteur pour le temps qu'ils vont vivre maintenant avec nous dans ce bâtiment, mais voilà, avec des activités qui leur sont dédiées. Nous te les remettons afin que tu te révèles à eux, Seigneur. Amen.
Quand on pense à l'ascension, on repense à cet épisode où Jésus est monté au ciel. Mais a-t-il coupé le cordon avec nous? Je ne vais pas spoiler la réponse parce que c'est Philippe qui va nous donner quelques pistes tout à l'heure. Mais avant son message, on va juste se remettre 2 minutes dans le contexte et à la place des disciples. Quelques années avant cet événement de l'Ascension, les disciples étaient des gens ordinaires, comme vous et moi. Ils vivaient leur vie de pêcheurs, de collecteurs d'impôts, etc. Et Jésus leur a demandé de le suivre. Alors ils ont tout lâché, ils ont laissé de côté leur carrière, certains ont laissé de côté leur famille pour le suivre. Et ils ont suivi Jésus, ils ont parcouru plein de chemins avec lui, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont entendu dire qu'il est le Fils de Dieu, et ils ont eu confiance en lui. Mais ils ne comprenaient pas toujours tout. Et Jésus les avait avertis qu'ils devraient mourir. Et une fois cet événement arrivé, est-ce qu'on peut imaginer les disciples voir leur maître maltraité, humilié et mis à mort devant une foule, devant toute la foule ? Il était leur Seigneur et il est mort. Et voici que 3 jours après, il ressuscite. Et il est là à nouveau parmi eux. Acte 1-3 nous dit qu'après sa mort, Jésus se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection, qu'il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. De quoi reprendre bien confiance en lui. Est-ce que désormais ils avaient tout compris? On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que 40 jours après cet événement de la résurrection, les disciples ont vu Jésus rejoindre son Père, rejoindre Dieu, en leur promettant sa présence sous une autre forme, celle du Saint-Esprit. Et quel est l'impact de cet événement pour nous aujourd'hui? Alors je vais laisser Philippe continuer et je vais juste prier pour le message. Seigneur, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout ce que tu as fait pour nous. On ne comprend peut-être pas tout, mais... Je te remercie parce que tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui et tu veux nous t'approcher de nous et te présenter encore plus à nous ce matin. Et je te prie que tu puisses parler à travers ce que Philippe va nous partager ce matin. Que nos cœurs soient ouverts à ce que tu as envie de nous dire ce matin, Seigneur. Amen.
Bonjour à chacun, chacune. Chez nos voisins français, tous les ans, c'est un véritable casse-tête pour les employeurs et pour les autorités. Qu'est-ce qu'on va faire avec le jeudi de l'Ascension? Est-ce qu'il y aura école le vendredi? Est-ce qu'on fera le pont? Est-ce qu'il y aura un viaduc entre l'Ascension et la Pentecôte? Je ne vois pratiquement jamais d'allusion à l'origine chrétienne de ce jour férié. Alors que chez les catholiques et les orthodoxes, ce jour garde toute son importance, il n'est pratiquement pas fêté chez les protestants évangéliques que nous sommes. Il n'est même pas férié dans tous les pays. Et pourtant, ce jour me renvoie à une question. Est-ce que Jésus a coupé le cordon? Il me renvoie à un fait biblique significatif qui compte dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Qu'est-ce que ça implique que ce Jésus qui a accompli le salut de nos péchés, qui nous a donné une vie nouvelle, qui nous a réconciliés avec Dieu, que ce Jésus soit remonté au ciel? A-t-il coupé le cordon? Je vous propose d'y réfléchir un peu ce matin et de réfléchir d'abord au fait biblique. Cela se passe 40 jours après le dimanche de la résurrection et nous lisons ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Nous y revenons encore une fois aux Actes des Apôtres, puis nous ferons une pause pour reprendre un peu plus tard dans l'année. Mais d'abord, le fait biblique.
C'est Actes 1 4 à 11. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Et il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Le retour à Jérusalem. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. »
Le fait biblique, Jésus est monté au ciel. Et le récit commence presque banalement au verset 4. « Or, un jour... » qu'ils prenaient un repas avec eux. On oublierait presque que Jésus, 6 semaines avant, a été livré à la mort et qu'il est effectivement mort, crucifié. On oublierait presque que ce Jésus qui mange avec les siens et qui les enseigne est un ressuscité. Pas tout à fait le premier ressuscité de l'histoire. Il y a eu quelques histoires de résurrection avant, avec des gens qui sont revenus à la vie normale, mais qui ont dû mourir une seconde fois après. Jésus, lui, est le premier, et pour l'instant, le seul qui ressuscite glorieux pour ne plus mourir. Et ce Jésus glorieux mange avec ses disciples. Il enseigne encore une fois sur la venue du Saint-Esprit. Il redit que ses apôtres doivent être ses témoins jusqu'aux extrémités du monde. Et cette fois-ci, il part pour de bon. Il apparaissait, il disparaissait sans crier gare jusqu'ici. Et cette fois-ci, il disparaît pour de bon. Est-ce que Jésus a coupé le cordon? Cette fois, son départ a quelque chose de solennel, de symbolique. Il monte jusque dans les nuages et deux anges apparaissent pour dire que ce Jésus qui est en train de disparaître va revenir. La chose est résumée très succinctement dans le credo que quelques-uns d'entre nous connaissent probablement. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un deuxième passage de la Bible va nous aider à le comprendre, j'espère. Et c'est le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux que Aurélie va nous lire maintenant.
Je vais lire Hébreux 1, 1 à 13. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par des prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci ? « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et lui, pour moi, sera un fils. » Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore, « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » Au sujet des anges, il dit, « Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. » Mais au sujet du Fils, il dit, « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. » Il dit aussi, « C'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a posé les fondements de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit. Comme un manteau, tu les enrouleras. Comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. » Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. »
Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est ressuscité et qu'il est monté vers Dieu son Père ? Concrètement, pratiquement, pour la vie de tous les jours, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je vous propose trois pistes simples ce matin autour de cette lettre, ce premier chapitre de la lettre aux Hébreux. La première piste que je vous propose, c'est que Jésus a accompli sa mission. Le texte nous dit, il s'est assis. Quand s'est-il assis ? Le texte dit, après avoir accompli la purification des péchés. Après la croix, avec la résurrection, avant la Pentecôte, Jésus s'est assis. Et il me semble qu'il y a là le signe d'un travail terminé, d'une mission qu'il a réalisée avec succès. Quelle mission ? Donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous vous rappelez sans doute l'une des toutes dernières paroles de Jésus sur la croix. Un grand cri, en fait, plus qu'une parole, un grand cri. Tetelestai, tetelestai, c'est accompli, c'est fait, c'est fini. Et le voile du temple se déchire de haut en bas pour dire au monde entier qu'il n'y a plus aucun obstacle entre Dieu et celles et ceux qui veulent s'approcher de lui. Dieu est accessible. Dieu accueille amplement. Dieu accueille radicalement. Jésus n'a donc pas coupé le cordon. Il a plutôt rétabli le courant, resserré les liens. Le salut était promis de façon assez énigmatique dans le livre de la Genèse. Il a été annoncé de plus en plus clairement par toutes les institutions d'Israël, par les prophètes, dans les psaumes. Mais maintenant, le salut promis a été accompli. Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Mission accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Jésus ait accompli sa mission ? Eh bien, ça veut dire que la purification de tes péchés a été réalisée. Tes péchés ne t'empêchent plus de voir Dieu. tes péchés n'empêchent pas de voir Dieu en toi. Tu ne peux rien ajouter à ce que Jésus-Christ a fait. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est un don, c'est un cadeau, c'est une vraie bénédiction, surtout pour celles et ceux qui ont la conscience tourmentée, qui pensent qu'ils n'ont toujours pas assez fait pour mériter l'amour de Dieu, qu'il y a encore pour eux du pain sur la planche. Eh bien non. Christ a fait pour toi ce que tu ne pouvais pas faire toi-même. Et il s'est assis, signe d'une mission accomplie. Qu'est-ce que tu dois faire donc? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tout et rien. Rien si c'est pour te faire pardonner. Tu n'as rien à faire si c'est pour te faire pardonner. Mais tout si c'est pour montrer ta gratitude. Tu as tout à faire si c'est pour montrer ta gratitude. Tu te lèves donc le matin et tu peux dire « Christ s'est assis dans la gloire de Dieu. Sa mission est accomplie. Mon salut est acquis. Je lui dois tout. » Une deuxième piste, parce que dans l'ascension, il y a plus encore. S'asseoir à la droite de la majesté divine, comme le disent la plupart de nos traductions, c'est siéger pour régner. C'est s'asseoir avec Dieu pour régner. Et l'image du Christ assis sur un trône pour gouverner le monde a inspiré quantité d'artistes chrétiens tout au long des siècles. On l'appelle parfois le Christ en gloire ou le Christ en majesté. Il tient le livre des Saintes Écritures de sa main gauche, il lève la main droite pour bénir ou pour enseigner. Il n'est plus l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il ne paye plus le prix. Il règne. Il règne. Et c'est cela que nous avons dans le passage de l'Épître aux Hébreux que nous venons de lire. « Ô Fils, Dieu dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Hébreux 1, verset 8. L'Épître aux Éphésiens le dit encore plus amplement. Dieu a montré sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En attendant donc le jour où, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre et sous la terre, où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, en attendant ce jour, Christ règne. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, verset 25. Christ règne. Oui, mais si Christ règne dans l'Église, comment se fait-il qu'il y ait tellement de bizarreries, tant de querelles, tant d'erreurs, tant de fautes graves, tant d'injustices, tant de silence dans l'Église même? Si Christ règne non seulement sur l'Église, mais s'il règne sur ce monde, comment se fait-il qu'il y ait tellement d'injustices, qu'il y ait tellement de guerres, de violences, de persécutions? Si Christ règne, Comment expliquer que des gens soient jetés sur les routes de l'exil, obligés de fuir à pied, de prendre la mer, de risquer d'y laisser leur vie? Comment expliquer que des millions de femmes soient violées, excisées, exclues de l'éducation, de la santé? Comment expliquer que des enfants soient pris dans des réseaux de prostitution? Si Christ règne, et si Christ règne sur ma vie, comment se fait-il qu'il m'arrive tellement de misère? Et surtout, comment se fait-il que je pêche encore, que je blesse des personnes qui me sont chères, que je ne respecte pas toujours mes engagements, que je sois esclave de mes passions, que je n'arrive pas à tenir ma langue? La première réponse, elle est toute trouvée. La première réponse, c'est parce que souvent, je ne veux pas qu'il en soit autrement. Par moment au moins, je choisis, moi, de ne pas admettre sur ma vie la seigneurie de Jésus-Christ. Je me laisse aller, ou j'en fais qu'à ma tête. J'oublie qui est le chef. Je fais comme s'il ne voyait rien. Je fais comme s'il n'avait rien à me dire. Et le chef, pour le moment, ben, il me laisse faire. Ce n'est pas là toute la réponse. Parce que si c'était là toute la réponse, elle sous-estimerait l'incroyable puissance du mal. Le mal, ce n'est pas seulement l'absence du bien. Le mal, ce n'est pas juste l'ombre qui nous fait apprécier la lumière. Le mal, c'est une puissance. Parfois extrêmement violente. Parfois insidieuse, toujours acharnée à défaire ce que Dieu a fait. Si moi, Bibi, je tombe, si l'Église nous déçoit, si l'histoire montre à quel point les êtres humains peuvent être méchants, mauvais, c'est parce que le mal existe réellement. Si le Seigneur ne le limitait pas, ce serait encore 100 000 fois pire. Si le Seigneur ne le limitait pas. Si le Seigneur ne limitait pas le mal, il n'y aurait plus aucun juif en Europe. Il n'y aurait plus aucun Tutsi au Rwanda. Il n'y aurait plus aucun chrétien au Moyen-Orient. Si le Seigneur ne limitait pas le mal, la vie serait un enfer. Si Christ règne, comment se fait-il que cela ne se voit pas beaucoup plus? Eh bien, c'est que moi, pour commencer, moi je suis parfois incohérent. Et pour poursuivre, c'est que le mal est d'une puissance redoutable. Il reste vrai que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au dessein de Dieu. Son action, elle est discrète. Son action, elle est délicate. Il n'a pas encore sifflé la fin de la partie. Et en attendant, il poursuit ses plans en utilisant même le mal. Le mal inqualifiable, le mal inacceptable en vue du bien. La maladie en vue d'une guérison intérieure. Une injustice au travail en vue d'un progrès vers la sainteté. L'ultime injustice de la croix en vue du salut du monde. L'abominable révolution iranienne a vu une explosion dans le nombre d'églises dans ce pays. Moi, je ne serais pas surpris si les horreurs de Daesh poussait des centaines de milliers de gens dans cette région du monde à découvrir la vérité en Jésus-Christ. Regardez les pages de l'Ancien Testament. Des armées traversent ces pages dans tous les sens. Et les prophètes disent très clairement que le maître des nations, c'est Dieu. Christ règne. Quand je suis dépassé, quand la situation me surpasse, quand je coule, quand tout semble ligué contre moi ou contre ceux que j'aime, je veux me souvenir que Christ règne. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela te dit que tu ne comprends pas aujourd'hui toute chose, mais qu'un jour tu comprendras. Parce que Jésus n'a pas coupé le cordon. Il règne. Tu te lèves le matin et tu peux te dire, Christ s'est assis en majesté parce que mon salut est accompli. Christ s'est assis dans la gloire et il règne. Et il règne. Une troisième et dernière piste. Vous avez entendu ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, que tous les anges de Dieu l'adorent ou que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Si on regarde bien ce passage, on comprend pourquoi. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de ce que Dieu est. Verset 3. Du Fils, il est dit, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Le Fils est créateur, au même titre que le Père. Nous adorons en Jésus-Christ la parole éternelle faite chair. Nous adorons le Créateur, nous adorons le Dieu éternel, nous adorons Yahweh, pas un nouveau Dieu, pas un deuxième Dieu, pas un Dieu de second rang, pas un petit Dieu que l'on glisse autour du cou ou avec un ictus sur sa voiture, pas un petit Dieu de seconde zone, mais nous adorons le Dieu de toujours. Le Dieu premier, le Dieu de tout. Jésus, bien sûr, est différent du Père. Il est l'expression parfaite de l'être du Père. Il est un avec le Père. Si vous voulez connaître Dieu le Père, si vous voulez savoir qui est Dieu vraiment, regardez à Jésus. Parce qu'il manifeste en personne Dieu. Jésus n'a donc pas coupé le cordon. Au contraire, il le retisse, il le concrétise, il le matérialise. Et Hébreux 1 en parle de manière assez paradoxale, parce que d'une part, nous avons le langage dans Hébreux 1 d'une victoire accomplie, suivie d'une grande récompense. Il a acquis un rang bien plus éminent que celui des anges. Dieu lui a donné un titre qui est incomparablement supérieur au leur. Donc il a été récompensé. Et d'autre part, nous avons le langage de l'éternité. Christ est depuis toujours le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Entre l'éternité à venir et la victoire qui a été récompensée, nous avons l'incarnation et la rédemption. Selon Jésus-Christ lui-même, le projet du Père, c'est que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Jean 5, verset 23. Il est donc assis sur le trône. Il reçoit les hommages du monde invisible. Il est entouré des louanges de ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Il se réjouit des louanges qui montent vers lui depuis la terre, comme ce matin à l'église de Mérin. L'ascension. Jésus n'a pas couper le cordon. Tu te lèves le matin, tu peux te dire de façon absolument assurée que ton salut est acquis. Tu es un homme, une femme pardonnée, aimée de Dieu, que rien ne peut séparer de l'amour de Dieu Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es aimé. Tu peux te dire que Christ règne. Que rien de ce qui te dépasse ne le dépasse. Que tout a un sens. Et tu peux te dire qu'il mérite ton adoration. Les liens se resserrent. Il mérite ton adoration. Nos chants, notre libéralité, notre générosité, participer à la vie de notre Église concrètement, avec des dons matériels, avec des dons spirituels. Il mérite notre adoration. Mais vous l'avez compris. Sinon, qu'est-ce que vous feriez là ce matin? Regardez, il fait grand beau. Vous pourriez être à la pêche, en rando, dans votre jardin, sur votre balcon, au fond du lit, à faire la grasse mat. Vous l'avez compris. Il mérite notre adoration. Tu peux dire avec Thomas, juste une semaine après Pâques, « Mon Seigneur et mon Dieu ». J'espère que l'ascension va nous motiver à vivre pour sa gloire en attendant son retour. Amen.
On va vivre le temps de Sainte-Cène dans la continuité de ce que Philippe nous a partagé ce matin. Et ouais, on veut s'approcher de Dieu avec cette confiance qu'il règne. Et on veut déjà vivre cette adoration dans ce repas qu'on va partager ensemble. Se rappeler aussi que Jésus l'a partagé avec ses disciples et qu'il leur a promis de le partager à nouveau avec eux et avec nous, dans le royaume de son Père. Je vais lire le texte dans Matthieu 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vais prier. Jésus, on veut te remercier pour ton œuvre à la croix et ton œuvre à côté de ton Père. Tu as accompli sa volonté et tu règnes. Et on veut vraiment t'adorer pour cela. Et que ce soit pas seulement ce matin, mais que ce soit dans notre vie tout entière, qu'on aille un cœur centré sur toi et un cœur qui désire t'adorer. Merci parce que tu es avec nous ce matin et on peut déjà prendre ce repas en sachant que tu es là. Amen. Pendant ce temps, je vous propose de vivre un temps de prière communautaire. N'hésitez pas à prier, à élever vos voix vers Dieu pour en réponse au message qu'on a entendu tout à l'heure.
On va continuer ce temps d'adoration en chantant le chant « Toi seul es digne » et en vivant l'offrande, qui est aussi une forme d'adoration de notre part et de confiance envers Dieu. Donc je vous invite à écouter ce chant si vous ne le connaissez pas, à vous laisser imprégner des paroles, et si vous le connaissez, à le chanter avec l'équipe.
Thank you.
Seigneur, je te remercie pour cette offrande qu'on peut te donner, Seigneur, qui va servir à l'avancement de ton royaume aussi. Je te prie que tu puisses conduire les personnes qui vont gérer cet argent, que tu puisses leur donner ton discernement pour qu'elles le fassent avec sagesse et que ça permette à cette Église d'aller toujours de l'avant avec toi. Amen. On va passer aux annonces. Merci, Joanne.
Bonjour à tous. Alors, tout à l'heure, nous avons le repas canadien. Bienvenue à chacun, même ceux qui n'ont rien amené, vous êtes les bienvenus. Ensuite, cette semaine, le mardi, les ateliers bibliques. Donc, mardi 4 juin. Mais où vont les morts? Pour la suite de la semaine, mercredi, nous avons la rencontre du conseil. Vendredi, le groupe de caté. Et puis, dimanche prochain, culte de Pentecôte à 10h ici. Mardi 11 juin, il y aura une soirée avec... Flavien Negrini, avec à 19h à l'apéro et à 20h une soirée de témoignages. Vous êtes tous les bienvenus pour venir soutenir un de nos envoyés. Vendredi 21 juin, le colloque ici, donc c'est un vendredi à 20h15. Le mardi 25 juin, la sortie annuelle du fil d'argent. Et puis, il y a encore deux petites annonces. Thierry, pour la journée mondiale d'évangélisation.
Voilà, plutôt un retour sur cette journée que nous avons vécue samedi passé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. J'aimerais juste vous donner un petit témoignage de ce que moi j'ai vécu. Je ne sais pas comment vous me voyez, comment vous me connaissez, mais je ne suis pas un évangéliste. Je suis quelqu'un qui pousse les gens à aller vers les autres, vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais je me pousse avec. Je ne suis pas un naturel, parce que je crois que ça fait partie de ce qu'on doit faire, et je crois que les évangélistes sont là pour nous emmener avec eux, pour nous former dans l'évangélisation. Mais ce n'est pas qu'eux qui sont appelés à faire ça. Donc voilà, moi, comme beaucoup, j'ai peur d'aller à la rencontre des gens, j'ai peur de leur parler, c'est surtout le premier contact qui est difficile, une fois que la conversation est engagée, ça va. Et puis voilà, j'étais là à tirer ce projet en avant sur Genève pour que les gens aillent dans la rue pendant cette journée. Et puis on a vécu des belles choses. Franchement, ça a été dur d'arriver jusque-là, personnellement en tout cas, mais j'ai vraiment été encouragé pendant cette journée. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller avec un évangéliste, justement, quelqu'un qui fait ça régulièrement, qui a l'habitude et qui est très à l'aise. Et puis je me suis collé à lui, et puis voilà, j'ai bénéficié un petit peu de son expérience et c'était génial. On a fait 5 mètres et on a engagé une conversation, et puis on a fait 10 mètres et on a engagé une autre conversation, et puis on a fait 15 mètres et on a engagé une autre conversation, là à Mérin, dans les rues et sur les places publiques. Donc c'est possible, vraiment, et ça s'apprend en fait. C'est pas juste un appel divin pour quelques personnes, ça s'apprend, c'est comme parler en public. J'avais pas l'habitude de faire ça il y a longtemps, et maintenant je le fais facilement parce que j'ai appris. Eh bien, aller au contact des gens là dans la rue, ça s'apprend aussi. J'ai commencé à apprendre avec cette personne. On a parlé à des jeunes qui étaient là, qui fumaient du hashish, et puis on a parlé de la foi, on a parlé de Dieu, on a prié avec eux. On a parlé à deux musulmans qui étaient là sur des bancs, un petit peu réticents au début, mais voilà, on a le sourire, on les salue, on cherche à les connaître, et puis tout à coup ils s'ouvrent et ils parlent aussi de leur foi. Et voilà, c'était super. On a prié avec plusieurs personnes. J'ai aussi pu prier avec une dame qui avait vraiment des douleurs, qui avait de la peine à marcher. On voyait qu'elle était sortie, elle, presque en robe de chambre, parce que voilà, elle n'arrivait pas à s'habiller. Et puis une dame l'aidait à marcher. Et puis elle était très touchée que je m'approche d'elle et que je lui dise « Est-ce que je peux vous aider à aller jusqu'à chez vous ?» Elle dit « Non, ça va. Est-ce que je peux prier pour vous ?» « Oui, volontiers. » Et puis voilà, on a prié là dans la rue. Elle était touchée. Je ne sais pas ce que Dieu va faire de tout ça, mais au moins on va en contact des gens. Il y en a très peu qui refusent la prière, en fait. Donc voilà, je vous encourage, quand il y a des opportunités comme cela, eh bien, oui, il faut faire l'effort. Moi, je le fais à chaque fois, mais faites-le avec moi, avec nous, et puis allons en contact de ces gens qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Voilà.
Merci Thierry pour cet encouragement, pour nous tous. Le dimanche 23 juin, il y aura des baptêmes ici. Si quelqu'un ici n'a pas été baptisé en donnant son témoignage de sa foi en Jésus-Christ, c'est une opportunité. Le dimanche 23 juin, vous allez voir le pasteur Philippe ou Claude, et puis on pourra l'envisager ensemble. Le dimanche d'après, c'est le dernier dimanche de juin. Et là, on va laisser la possibilité à des nouvelles personnes qui n'ont jamais donné témoignage de leur foi de dire quelque chose sur comment Jésus les a rencontrés ou comment ils ont rencontré Jésus. C'est pareil, hein ? Ça va ? Donc, c'est un dimanche de témoignage spécial. Vous n'oubliez pas, si vous souhaitez, si vous pouvez, dire quelque chose sur comment vous avez reçu Jésus dans votre vie, parce qu'on ne vous connaît pas, c'est l'occasion d'apprendre à connaître la diversité des situations et des gens. Ça va ? Est-ce qu'il y en a ici quelques-uns qui seraient éventuellement concernés, des nouveaux de la communauté qui voudraient donner témoignage de Jésus ? Le 30, oui, c'est bien, deux, d'Iran et de... Oui ? Et puis d'autres, des nouveaux, hein, c'est l'occasion. Vous réfléchissez ? C'est tout simple, je me mets à côté de vous, il ne vous arrivera rien. Ça va ? Et aussi, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui vont déménager dans un autre canton cet été. Et s'ils peuvent être là le 30 pour dire au revoir, pour dire ce qu'ils vont faire, ce sera aussi l'occasion de resserrer les liens communautaires. Le 30. Ça va ? Merci.
Alors, moi, je profite encore d'avoir le micro pour... Philippe m'a proposé de vous expliquer un petit peu ma situation, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs dimanches que je ne viens plus à Mérin. C'est pas parce que je ne vais plus à l'église, c'est parce que mon fiancé est pasteur stagiaire à l'église de Rolles, l'église des Marronniers.
Du coup, je vais petit à petit de plus en plus avec lui à l'église. Donc voilà, je vais à Rolle au Marronnier. Et c'est pour ça que je viens très ponctuellement à Mérin. Mais vous me manquez beaucoup. Et puis, ouais, je tiens vraiment à tous vous remercier. Enfin, c'est vrai que j'ai fait toute mon enfance. Enfin, je suis là depuis toute petite. Et c'est vraiment un plaisir de vous revoir aujourd'hui et quand je peux venir vous dire bonjour. Voilà.
Merci Aurélie. On demande au Seigneur de faire reposer sa bénédiction sur toi, sur David, avec les beaux projets qui vous animent. Je ne pense pas être le mieux placé pour dire devant tout le monde, vous qui la connaissez depuis longtemps, à quel point Aurélie est une bénédiction pour l'église de Mérin. Et c'est aussi un privilège d'imaginer que tu vas l'être pour d'autres de nos frères et sœurs. Que le Seigneur fasse reposer sa bénédiction sur toi. Et puis pour nous tous, j'aimerais simplement conclure en lisant trois versets, encore dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 14 à 16, en nous souvenant que Dieu ne nous a pas seulement donné sa grâce, ce qui est déjà tellement un privilège, mais il nous a donné le Seigneur de la grâce. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui, après avoir traversé les cieux, est auprès de Dieu. Demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Que Dieu vous accorde sa bonté et sa grâce pour que vous soyez secourus au bon moment. Belle semaine à chacun, chacune.